Il est 6h, très bon réveil. 5h-7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce vendredi 7 décembre, voici le journal de Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une Sébastien.
Paris se barricade en vue de la 4e journée de mobilisation des Gilets jaunes. Demain, magasins, théâtres et monuments fermés. Un dispositif de sécurité sans précédent déployé avec des blindés dans les rues. Les détails dans un instant. Et en parallèle, la marche pour le climat aura bien lieu ce samedi, mais avec un itinéraire modifié et surtout éloigné des Champs-Élysées. Et puis face à face décisif aujourd'hui dans l'affaire Alexia Daval, son mari qui avait avoué le meurtre sera confronté à sa belle-famille.
Europe 1.
Il est silencieux depuis plusieurs jours maintenant, empêtré dans cette crise des Gilets jaunes. Le président de la République va s'exprimer, on l'apprend ce matin. C'est Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, qui l'annonce. Mais ce sera la semaine prochaine, donc après la journée de mobilisation de demain, 4e samedi de mobilisation qui fait craindre de nouveaux débordements et violences. Hier soir, aux 20h de TF1, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé un dispositif de sécurité d'une ampleur inédite, avec notamment des blindés de la gendarmerie dans les rues de Paris. 89 000 agents des forces de l'ordre dans toute la France. Les détails avec Alain Inco.
Rien qu'à Paris, ils seront plus de 8 000, presque deux fois plus que samedi dernier. 8 000 répartis sur toute la capitale, car d'autres sites que les Champs-Élysées pourraient être pris pour cible. Bercy, par exemple, et le ministère des Finances. Pour la première fois, des blindés de la gendarmerie seront déployés dans Paris. Des blindés à roues, régulièrement utilisés en Nouvelle-Calédonie pour protéger les gendarmes qui se font tirer dessus. Plus récemment aussi à La Réunion ou à Notre-Dame-des-Landes, pour dégager les barrages routiers. 12 engins de ce type seront positionnés dans la capitale. Selon nos informations, il y en aura aussi 2 à Marseille, 2 autres à Bordeaux. Illustration de cette mobilisation générale, la gendarmerie a suspendu tous les repos, rappelé tous les permissionnaires. 100 escadrons de mobiles sur 109 seront sur le pont. 55 compagnies de CRS sur 60. C'est du jamais vu. À Paris, on a même demandé à la brigade anti-gang de déployer une centaine d'hommes dans les rues. Cela fait 3 ans qu'ils s'entraînent pour des combats urbains contre des commandos terroristes.
Alain Inco, le chef du service police-justice d'Europe 1. Par précaution, la plupart des musées parisiens fermeront leurs portes demain. La Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, les théâtres annulent leurs représentations et les commerces des Champs-Élysées ne lèveront pas le rideau. Un énorme manque à gagner attendu à 3 semaines de Noël. Reportage Victor Delande.
À moins de 3 semaines de Noël, sur les Champs-Élysées, vous ne risquez pas de vous faire bousculer ni de vous perdre dans la foule.
On sent que c'est très calme.
Anthony est directeur d'un bistrot en bas de l'avenue. Les conséquences des manifestations, il les voit tous les jours.
On a une perte de chiffre d'affaires qui est considérable. On voit pas trop de touristes, on voit un peu de Parisiens. Pour un mois de décembre, on reconnaît pas les Champs-Élysées.
Un chiffre d'affaires en baisse, mais pas question d'ouvrir demain. Trop dangereux, nous confie-t-il. Angélique, elle, tient une boutique de thé. La baisse de la fréquentation, elle l'a subie également. Mais elle est surtout inquiète pour sa sécurité.
On a un petit peu peur pour nous quand on entend les sirènes. On se demande tous qu'est-ce qui se passe. C'était effrayant ce qui s'est passé de samedi en arrière. C'était la guerre. Donc oui, on a peur aussi pour nous.
Otilia tient un magasin de bijoux sur les Champs-Élysées. Elle sera obligée de fermer son commerce demain. Mais ça ne l'empêche pas de soutenir les Gilets jaunes.
Moi, ça ne m'inquiète pas. Il faut pas qu'ils laissent tomber. Même si je ferme et que c'est un manque à gagner, je pense qu'ils ont raison de faire ce qu'ils font.
La plupart des commerçants suivront tout de même les recommandations de la préfecture et dès ce soir, ils barricaderont leurs magasins avec des palissades en bois et des grilles en fer.
Reportage signé Victor Delande.
Et ces derniers jours, le mouvement des Gilets jaunes s'est aussi étendu au lycée.
Avec là aussi, dans plusieurs établissements, des heurts et des dégradations, 700 interpellations sur la journée d'hier et quelques 280 lycées et collèges perturbés. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a écrit aux professeurs. Il évoque une situation exceptionnelle et leur demande de protéger leurs élèves et de ne pas appeler à manifester. Alors comment sortir de la crise? Europe 1 vous donne la parole tout au long de la semaine et vient à votre rencontre. Alors après Brignoles et Saint-Avold, Mathieu Béliard présentera ce soir votre grand journal du soir depuis Calais. Rendez-vous à partir de 18h.
Europe 1 est 6h04.
Et en parallèle de cette mobilisation des Gilets jaunes, les associations de défense de l'environnement appellent elles aussi à manifester demain à Paris.
Nous sommes en pleine COP 24 et cette marche pour le climat était prévue de longue date. La préfecture demandait un report pour des raisons de sécurité, mais les organisateurs ont tenu à la maintenir. Elle aura donc bien lieu, mais avec un parcours modifié lors d'Autriche.
La marche pour le climat devait se tenir près de la Tour Eiffel. Elle aura finalement lieu dans l'est de la capitale, de la place de la Nation jusqu'à la place de la République. République. Un parcours plus classique que les forces de l'ordre maîtrisent mieux, surtout dans le cas où les casseurs voudraient se joindre au cortège. Cette zone est aussi moins huppée que le 16e arrondissement, aux vitrines rutilantes, déjà éprouvées la semaine dernière. Malgré toutes les menaces, les organisateurs espèrent plus de 30 000 personnes, comme en octobre dernier. 250 bénévoles sécuriseront le parcours. Pauline Boyer, co-organisatrice de l'événement, invite même les gilets jaunes à venir marcher avec eux.
On ne peut pas, en pleine COP24, au moment où les négociations internationales n'avancent pas, annuler une marche pour le climat. Tous les gilets jaunes qui veulent venir marcher sont les bienvenus, parce qu'il y a énormément de revendications qui sont partagées. On ne peut pas opposer écologie et social.
Les organisateurs espèrent aussi que le concert qui est prévu à l'arrivée, Place de la République, avec Jeanne Chéral, Abdel Malik ou encore l'actrice Juliette Binoche, et qui doit durer 1h30, pourra se tenir.
D'Autriche, la spécialiste environnement d'Europe 1. Dans le reste de l'actualité de ce vendredi, une confrontation potentiellement décisive dans l'enquête sur le meurtre d'Alexia Daval. Son mari, qui avait avoué le meurtre avant de se rétracter, va faire face dans le bureau du juge à sa belle-famille et notamment son beau-frère. Et puis un mot pour vous dire que le Téléthon débute ce soir, 32e édition de ce week-end de mobilisation en faveur de la recherche sur les maladies rares, avec toujours le même numéro, 36-37 pour faire un don.
Merci, c'était le journal de Sébastien Krebs. Vous aimez Dave, Sébastien ?
Assez peu.
Je suis franc avec vous. Alors, si je vous dis
j'aime beaucoup la personne, pas forcément les chansons.
Si, bah, attendez, voilà. À mon avis, vous ne connaissez pas celle-ci. Si je vous dis...
Bon week-end, je vous souhaite un bon week-end.
C'est pas bon ça, Sébastien ?
Si, c'est
bon.
Allez, vous m'avez.
Il m'en va, il est journaliste, pas acteur. C'était Sébastien Krebs.
Il est 6h06, Mathieu Noël.
À suivre, cet historique, le fact-checking par l'histoire. Et alors que Paris et les grandes villes sont sous tension à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation des Gilets jaunes et que le spectre de la violence urbaine inquiète, on en a parlé, devinez de qui c'est l'anniversaire demain.
Jean-Luc Lahaye ?
Non, des CRS. Ils ont été créés un 8 décembre 1944.
Il est 6h08, Mathieu Noël.
Lors d'un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta, encore une journée pluvieuse.
Oui, c'est vrai, avec cette nouvelle perturbation qui arrive dans la matinée par le nord-ouest, elle va se décaler vers l'est dans la journée avec des averses soutenues et du vent. Les trois quarts du pays seront arrosés. On aura même quelques coups de tonnerre sur la Normandie dans l'après-midi. Le vent soufflera jusqu'à 80 km à l'heure dans les terres, 100 km à l'heure près des côtes de la Manche. Le soleil, lui, comme plusieurs jours, va bien résister des Pyrénées aux Alpes et même remonter sur le flanc est dans l'après-midi. Le tout sous des températures encore très douces avec une moyenne de 10 à 13 degrés sur la moitié nord. On perd déjà quelques degrés par rapport à hier, mais ça reste doux. 14 à 18, c'est la moyenne prévue pour la moitié sud cet après-midi.
Merci Céline. Eva, oui. C'est la journée mondiale de l'aviation civile.
Exactement,
aujourd'hui.
Donc on a
et
demandé,
vous en avez fait une question.
Voilà, on a demandé aux auditeurs ce qu'ils aimaient le plus quand ils prenaient l'avion ou au contraire leur phobie. Et il y a un message pour Suzy.
Le jus de tomate.
Il y a un message pour vous de Suzy. Écoutez bien, conseil pour Mathieu puisque vous avez dit que vous aviez peur de l'avion. L'avion est en bout de piste, les moteurs chauffent,
non,
l'avion
là,
s'élance.
Ça suffit, merci Eva.
Écoutez,
je décolle, ne veux pas savoir.
Vous êtes entre ciel et terre, même sensation que dans l'acte sexuel. Mathieu, pour être...
Ah.
Alors ça, pour votre prochain départ oui. En avion, vous fermez les yeux et vous essayez, ça va marcher. C'est un conseil de Suzy.
Il faut aimer d'accord. La sexualité de groupe, hein, parce que là, on est rarement seul dans l'avion, je voyage rarement en jet privé. Hein. Merci quand même, chers auditeurs. Merci Eva.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Et voici venu le moment. Il entre sous les hurrahs de ses collègues.
Oui.
Il est le journaliste sportif le plus complet de la bande FM. Céline le sait, il connaît tous les sports, même ceux dont tout le monde se fout.
Alors le tir à la corde, le squash, oui. Le ski nautique, le vol oui, en oui. Soufflerie, la pétanque, encore oui. Le billard, oui, oui. Le wushu.
Oui, merci Céline. Voici votre idole, notre idole, le seul journaliste assez consciencieux pour lire l'équipe jusqu'à la page 34, Jérôme Lacroix. À la une du JDS Jérôme, les gilets jaunes chamboulent la Ligue 1.
Et oui, plus de la moitié des rencontres de la 17e journée ne pourront pas se tenir entre ce soir et dimanche. 6 sur 10 sont reportés et pour raisons de sécurité, les forces de l'ordre sont mobilisées sur les manifestations. Trop peu reste disponible pour assurer la sécurité autour des stades. 6 reports, dont Nîmes-Nantes, PSG Montpellier, Saint-Etienne-Marseille et Monaco-Nice, le derby qui devait se tenir ce soir. Logique, dit l'entraîneur niçois Patrick Vieira, champion du monde 98. Le foot, dit-il, passe bien au second plan.
On vit en France, on voit ce qui se passe. C'est des moments difficiles que le pays est en train de traverser. Et on se sent bien sûr solidaire au peuple français, on va dire. Il y a des choses actuellement qui se passent, qui sont peut-être beaucoup plus importantes qu'un match de foot.
Des propos recueillis par Frédéric Hélion pour Europe 1. Je vous en parlais hier, Amélie Mauresmo a choisi d'entraîner Lucas Pouille et ne prendra pas du coup la tête des Bleus du tennis. Difficile de cumuler les deux casquettes. Le nom d'un remplaçant pour l'équipe de France sera proposé au comité exécutif de la Fédération dans les prochaines semaines. Il ou elle devra mener la France lors de la nouvelle compétition qui remplace la Coupe Davis.
Le handball, Jérôme, et les Françaises, le vent dans le dos.
Un vent qui, elle l'espère, va les mener jusqu'en demi-finale de l'Euro en France. Hier soir à Nantes, les Bleus ont battu des Danoises candidates au podium 29-23. Et souvenez-vous, hier à la même heure, je vous faisais entendre la joueuse Béatrice Edwige, vindicative hein, sportivement à quelques heures du match. Après la victoire ce matin, la même Béatrice Edwige, pas peu fière.
Je vous avais dit, voilà, maintenant c'est fait et on leur a donné une leçon ce soir. Il faut bien qu'elles se mettent dans la tête, les Danoises, qu'elles nous ont pas appris à jouer au handball en fait. On copie pas leur jeu, elles ont leur handball qui est très bien. Mais la France, on a notre handball et qui est encore mieux, je pense.
Et voilà, des propos recueillis par Christophe Lamar. Deux rencontres à gagner pour ces Bleus pour une demi-finale. La Suède demain et la Serbie mercredi.
On termine, Jérôme, avec l'histoire du jour.
Ah, on va boucler la boucle par rapport à votre petite introduction, puisque je vais vous parler ce matin.
Oui, d'un sport méconnu.
De hockey sur gazon. Je voulais saluer l'exploit de l'équipe de France. Le hockey sur gazon, discipline olympique, hein, s'il
bien
en
bien
est.
Sûr.
Et justement, les Bleus, classés seulement 20e mondiaux, viennent de faire tomber 5 buts à 3. Les Argentins, champions olympiques en titre et 2e mondiaux. Ça s'est passé à la Coupe du Monde, qui se tient en ce moment en Inde. Et oui, vous ne le saviez pas, la France n'y avait plus participé depuis 28 ans et voilà ces Français qualifiés pour le tour suivant. En fait, c'est un barrage, un 8e de finale. Le match est prévu lundi, on ne sait pas encore contre qui.
Merci Jérôme, mais j'ai une question. C'est pas les mêmes qui jouent sur le hockey sur gazon et le hockey sur glace? Parce qu'une fois qu'on est très bon en hockey sur gazon, à mon avis,
non, mais vous plaisantez,
on peut très vite aller en hockey sur glace, non?
Non, mais sortez de ce studio, je vous en supplie.
C'est le même principe. Bon, autant pour moi. C'était le Journal des Sports. Merci beaucoup Jérôme Lacroix. Céline, une précision quand même sur ce sport étrange dont vous nous avez parlé, le vol en soufflerie.
Le vol en soufflerie, vous savez, comme ça là.
Comment?
Comme ça là.
Ah oui, mais vos médicaments, vous les prenez toujours. Bon, en attendant, on passe à la rubrique histoire de cette matinale. Avec cet historien impartial qui, dans le tumulte actuel, avec les craintes de débordement violent des manifestations de gilets jaunes demain, ne dévoilerait jamais pour qui penche son cœur, la révolte populaire ou l'ordre légal. C'est pourquoi il fête ce matin, avec un peu d'avance, l'anniversaire des CRS. C'est en effet le 8 décembre 44 que naissait l'unité des CRS. Fabrice est comme un dingue.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Dalméda.
Oui, bonjour, si on peut dire.
Alors qu'une nouvelle manifestation se prépare demain à Paris, un syndicat de police a demandé le recours à l'armée. Ça s'est déjà produit.
Mais en fait, l'armée a longtemps rempli des missions de maintien de l'ordre. On luttait militairement sous l'ancien régime contre les brigands ou même les gens du peuple. Et encore au 19e siècle, face aux grandes manifestations, les soldats sont appelés. C'est la troupe qui tire dans la révolution de 1830, 10 000 morts. Lors des journées de juin 1848, 5 000 morts. Lors de la Commune de Paris, entre 10 et 30 000 morts. Pour éviter ces drames, donc, il fallait des unités spécialisées.
Ce sont les gendarmes mobiles et les CRS.
Oui, d'abord les gendarmes mobiles. Ce sont sous le nom de garde républicaine mobile. Ils sont créés en 1921. Leur statut de militaire permet de les garder plus longtemps en opération. Ils n'ont pas d'horaire. Ensuite, au sein de la police nationale, créée par le maréchal Pétain en 1941, sont créés les groupes mobiles de réserve, les GMR. Disons-le, ces policiers ont combattu les maquis dès 1943. À la Libération, les GMR sont épurés et insérés avec des résistants au sein des toutes nouvelles compagnies républicaines de sécurité, créées donc en décembre 1944. Bon anniversaire, les CRS doivent être les défenseurs de la démocratie.
Gendarmerie mobile et CRS, ça a permis de réduire la violence ?
Ben oui, les morts sont devenus extrêmement rares depuis les sanglantes manifestations de la guerre d'Algérie. Deux en mai 1968, Malik Oussekine en 1986, Rémi Fraisse en 2014, je n'oublie pas bien sûr les blessés. L'entraînement spécifique des gendarmes mobiles et des CRS a fait baisser la brutalité dans la répression. Fini les tirs tendus, les matraquages au sol, les noyades. Un mot encore. Dans leurs autres missions, les CRS sont secouristes en haute montagne ou nageurs-sauveteurs l'été sur les plages. Mais ne nous y trompons pas, leur mission première n'est pas la protection des citoyens, celle des institutions républicaines la précède.
Merci beaucoup Fabrice Delmeda, l'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve lundi, juste avant 6h15.
Europe 1, il est 6h16, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures de bonne humeur, d'actu et d'invités qui la font. À 6h20, à la veille de la marche pour le climat qui doit se tenir à Paris, et alors que la COP24 va son plein, on recevra quelqu'un qui est convaincu que...
La pollution, ce n'est pas bon, il faut tous faire attention.
Mais convaincu aussi que les chansons niaises et les grands discours ne sont pas forcément la meilleure manière de sensibiliser les gens aux problèmes écologiques. Lui, il pense que c'est par l'humour qu'on peut faire bouger les choses. Nous recevrons un youtubeur qui fait beaucoup parler, Mathieu Duméry, alias Professeur Feuillage. On y vient, mais Céline, gardons quand même le sens des priorités. L'environnement, c'est une chose, mais gagner un iPad Pro, c'est quand même plus important.
Et surtout que c'est le tout nouvel iPad Pro.
Ah bah oui, bah non, c'est d'autant plus important.
Pour jouer avec nous, écoutez Europe 1 et sachez reconnaître la fausse pub qui se cache parmi les vraies. Un exemple hier, c'était celle-ci qui a été diffusée sur Europe 1.
Le musée des arts incrédules présente
Gilles et John, quand la colère populaire rencontre l'art.
William Turcomauduit, commissaire de l'exposition.
Gilles et John, c'est l'improbable et foudroyante naissance du génie immédiat. L'abribus éclaté est une œuvre urgente, majeure, dans la lignée d'un Duchamp. L'amas de barrières vertes avec pavés touche au sublime, on pense au cri de Munch.
Gilles était au chômage, accablé de dettes, et John aussi. Ils se sont croisés aux Champs-Élysées, et là, leur œuvre est née de leurs mains, aux yeux de tous.
Gilles et John, ou quand le mobilier urbain se sublime pour devenir art, au musée des arts incrédules.
À tout moment sur Europe 1, une fausse pub peut être diffusée. Dans ces cas-là, quelle est la marche à suivre?
Eh bien, vous envoyez pub par SMS au 739 21, c'est 75 centimes plus le coût du SMS, ou alors vous appelez le 39 21, 50 centimes par minute. À gagner, je vous l'ai dit, le tout nouvel iPad Pro, et ça on peut le dire sans mentir que c'est la totale méga classe. Il est 6h20, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Emmanuel Macron va sortir de son silence, il sera amené à s'exprimer en début de semaine prochaine, annonce ce matin le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Ce sera donc après la grande journée de mobilisation de demain. Le président ne veut pas jeter de l'huile sur le feu, explique son entourage. Le gouvernement s'attend à de nouvelles violences plus graves encore que le week-end précédent. 89 000 policiers seront déployés dans toute la France, 8 000 à Paris. Des blindés de la gendarmerie seront positionnés dans les rues. Les commerces des Champs-Élysées et les musées resteront fermés. Enfin, dans ce contexte, le Téléthon ne pourra pas avoir lieu à la Concorde comme prévu. Coup d'envoi ce soir de 30 heures de mobilisation pour financer la recherche avec toujours ce numéro, le 3637.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce 7 décembre 2018. Et demain, 8 décembre, ce sera à Paris la marche pour le climat, une marche qui intervient en pleine COP24. Et après les derniers rapports extrêmement inquiétants du GIEC, sur le web, un collectif de youtubeurs a lancé l'opération « On est prêt à relever le défi », opération de sensibilisation à des gestes quotidiens. Parmi eux, Mathieu Duméry, alias Professeur Feuillage. Bonjour Mathieu Duméry.
Bonjour Mathieu.
Merci d'être avec nous. Je vois que vous avez pris votre plus belle voix.
Non, et ma voix du matin.
Alors avec vos vidéos au ton irrévérencieux, vous vous imposez comme un des youtubeurs les plus engagés en matière d'écologie. Alors déjà, vous faites quoi demain après-midi? Plutôt jaune ou plutôt vert?
Plutôt au milieu. On va pas mettre le gilet vert. Enfin, je trouve que ça s'oppose un petit peu au gilet jaune. Et je pense que les intérêts des gilets jaunes et des marcheurs pour le climat doivent converger aujourd'hui.
Alors, expliquez-nous comment. Parce qu'on pense que les gilets jaunes, à la base du combat des gilets jaunes, c'était le pouvoir d'achat, donc pas trop de taxes sur l'essence. Le combat écologique est un peu différent. On essaie de voir plus loin à long terme, mais si on peut taxer l'essence, c'est pas mal. Donc, comment vous voyez que ces deux combats peuvent se rejoindre?
C'est vrai que c'est difficile. Je pense que si on interroge individuellement les gilets jaunes, tous ne vont pas être des écolos convaincus. Beaucoup vont considérer qu'il y a une divergence entre la province, je sais qu'on dit région maintenant, et les bobos écolos parisiens. Là où ça converge, c'est juste qu'il faut le rappeler, et Nicolas Hulot l'avait rappelé, c'est que opposer le social et l'environnemental, c'est une erreur. Les premiers qui vont morfler avec le réchauffement climatique,
ça,
et c'est déjà le cas au Sahel, et partout ailleurs dans le monde, dans les zones tropicales, c'est les plus pauvres. En France, les premiers qui vont morfler, c'est les plus pauvres. Donc si on converge au niveau des luttes, ce sera beaucoup plus efficace.
Oui, mais comment on passe cette phase intermédiaire, si j'ose dire, où ce sont les plus démunis aussi qui trinquent avec les taxes sur les carburants? Ils sont aussi en première ligne. Alors je veux bien qu'après, sur le plus long terme, évidemment, ils vont trinquer encore plus. Mais dans un premier temps, comment on fait passer le message écologique auprès des gens qui ont du mal à boucler leur fin de mois?
Je suis un très bon exemple de personne qui n'avait pas réussi à boucler ses fins de mois et ça a été vraiment galère. Je vous dis une chose, c'est que le mouvement, par exemple, On est prêt, quand on appelle à la sobriété, on n'appelle pas à des restrictions, on n'est pas en train de priver les gens qui ont déjà pas beaucoup d'argent. Moi, à titre personnel, et la meilleure façon de convaincre, c'est l'exemple, quand j'étais en galère, le fait d'avoir un mode de vie sobre avec l'entraide, la solidarité qui sont indispensables, le fait d'être sobre dans mes achats m'a permis de ne pas avoir à faire de crédit auprès d'une banque. On fait des économies d'argent, on est en meilleure santé. Ça, il faut bien le rappeler, et on crée plus de liens sociaux. Donc, effectivement, ça paraît contradictoire d'aller au marché bio parce que ça coûte plus cher, mais à côté de ça, tout ce dont on peut se passer, les cotons-tiges, le sopalin, des produits qui vont périmer, qui sont dégueulasses et qui sont mauvais pour la santé, qui vont faire que vous allez aller chez le médecin plus souvent et avoir plus de frais de santé, ça, c'est une chose qui est très difficile à expliquer à des gens qui ont du mal à boucler à la fin de mois et qui ont besoin d'essence pour leur bagnole. Mais c'est hyper cohérent, en fait.
Oui, non, quand vous en parlez, effectivement, tout se tient, on le voit, et c'est important de le rappeler. Eva Rock.
Il y a une chose qui fait que Professeur Feuillage fonctionne aussi sur YouTube, c'est que vous êtes dans le concret. Vous donnez vraiment des exemples par le concret pour les jeunes, notamment qui vous regardent. Vous, au quotidien, quels sont les trois gestes, par exemple, que vous faites pour la planète et que vous avez mis en place
Moi,
de façon régulière ?
Moi, j'ai retenu pas de sopalin.
J'ai cru comprendre que vous aviez un tableau en bas dans votre immeuble.
Ah ouais, alors ça, mais il y a plein de choses qui sont vraiment très intéressantes. Oui, le tableau qu'on peut mettre en bas de chez soi, sur le petit tableau en liège qu'il y a à côté des notes de la concierge ou des voisins qui râlent parce qu'il y a eu du bruit la veille, vous pouvez mettre un tableau ou un tableau de partage. C'est-à-dire que vous pouvez mettre, par exemple, moi j'ai un appareil à raclette, je le prête.
Ah oui, c'est bien ça.
J'ai une perceuse, je la prête. Vous savez qu'une perceuse après achat, la moyenne d'utilisation, c'est 20 minutes.
Oui, c'est vrai que c'est donc, que c'est fou, c'est objets qu'on a pour rien.
Et on est d'accord. L'appareil ouais. raclette, il sert une fois, trois fois.
Ah, ça, c'est bien. Alors, au niveau de la copropriété, faire un partage au sein de la copropriété.
Et c'est aussi ça, la sobriété. La sobriété, c'est
on
pas.
On pourrait
juste
même dire, j'ai une idée. Oui. Est-ce qu'on pourrait pas mettre dire, j'ai des œufs, j'en ai acheté trop, j'en ai 12, si quelqu'un veut faire une omelette, enfin, j'en ai trop, ils vont être périmés, tout ça.
Mais
ça,
les frigos de partage, ça existe.
Les frigos de partage, ça, c'est une bonne idée.
Et ça se fait beaucoup mieux dans des habitats partagés comme les immeubles.
Alors, un mot un peu plus négatif, un peu plus pessimiste, vous connaissez mon côté pessimiste. Les gestes individuels du quotidien, à notre échelle, c'est très bien. Il faut les faire. Mais est-ce que la pollution à l'échelle mondiale, c'est pas surtout les grandes entreprises à propos de la pollution, les chiffres des émissions de CO2 viennent d'être présentés à la COP24. Ils montrent qu'il y a eu une nette reprise des émissions de CO2 en 2018. On a l'impression qu'on va pas s'en sortir si les gros pollueurs, les industries ne s'y mettent pas, quoi.
Non, Mathieu, j'aime quand vous me tendez ce genre de perche.
Non, mais oui, comme ça, je sais que vous allez la saisir et franchir l'obstacle.
En tout bien tout honneur. Oui, j'adore ce genre d'exemple parce que on a souvent coutume d'opposer les industriels qui polluent, les salauds, les Monsanto, les Danone, même si Danone est un président qui est en train de faire évoluer les choses, et les petits consommateurs. Et quand on dit faites des efforts chez vous, ils disent oui, mais c'est pas juste. Pourquoi typiquement, ce documentaire qui est sorti, Oubliez les douches courtes, pourquoi moi je couperais l'eau du robinet quand je me brosse les dents, alors qu'à côté, il y a des champs de maïs qui sont arrosés toute la journée, il y a un golf à côté de chez moi qui met des mètres cubes d'eau pour garder un green bien vert. C'est pas juste. Oui, mais qui achète les produits de ces entreprises et de ces industries ?
D'accord, donc c'est dans nos gestes de boycotter quelque part les produits de ces entreprises.
Exactement, le boycott, c'est essentiel aujourd'hui. Si on veut avoir une action qui soit forte, il faut faire des petits pas, des petits gestes, que Nicolas Hulot disait, les petits pas. Ça, c'est réservé aux individuels. Sauf que si on le fait tous, eh ben ça fonctionne. Je ne cesse de crier cet exemple qui est très éloquent. Si on coupe tous nos box la nuit Internet, c'est 1% d'électricité qui n'est pas besoin d'être produite en France.
Ah oui,
1%
ça,
juste en débranchant.
Moi, personnellement,
c'est
pense
une
jamais,
non-action. Ouais. Et le boycott fait partie de ces non-actions.
Merci beaucoup Mathieu Duméry, alias
déjà, mince.
Professeur oui. Feuillage. Et oui, d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. C'est court, mais c'est bon.
Europe 1. Il est 6h27, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 de David Doucan. La météo revient et la douceur fait de la résistance.
Il est 6h29, Mathieu Noël.
L'heure de faire un point sur la météo avec vous, Céline. Une journée encore pluvieuse,
oui,
hélas.
Oui, beaucoup de nuages sur les trois quarts du pays. Et puis cette nouvelle perturbation qui arrive en fin de matinée par le nord-ouest qui apportera des averses soutenues et du vent. Averses soutenues qui vont se décaler vers l'est et le sud et gagneront toutes les régions entre les Pays de la Loire, la Normandie, le Poitou-Charentes et la Champagne-Ardenne en passant par l'Île-de-France assez en fin de matinée. Puis un peu plus tard, ce sera entre l'Aquitaine et le Grand Est. Beaucoup de vent, attention à 80 km à l'heure dans les terres, 100 km à l'heure près des côtes de la Manche cet après-midi. Le soleil résiste des Pyrénées jusqu'aux Alpes et les températures restent douces.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures à la lisière de l'info et du rire en compagnie de mes précieuses complices Céline Dacosta et Eva Rock. Et Eva, j'ai une proposition pour vous.
De quelle nature ?
Non, pas de cette nature-là, non. Journalistique, je voulais juste vous proposer qu'après le journal, on retrouve l'équipe des Trois Fantastiques au grand complet. Axel de Tarlet nous parlerait du trafic aérien qui bat des records en Europe, mais sans effet sur Air France, qui va toujours mal. Vous, Eva, vous nous diriez quoi regarder la télé ce week-end. Mickaël Darmon nous dévoilerait la tactique de l'Elysée pour faire face aux mobilisations prévues demain. Tout ça, évidemment, après le journal du Barry White blanc, David The Voice Doucan. Vous êtes prêt, David ?
Lionel Gougelot.
Occupez-vous, il est bien prêt.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. 5h30, 5h-7h, Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30 avec vous, David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une aujourd'hui.
Nous n'avons pas vu un tel dispositif depuis les émeutes de 2005. Le gouvernement craint le pire. Les autorités s'attendent pour demain, notamment à Paris, à un déchaînement encore plus grave que celui de la semaine dernière. Les élus sont dans le viseur de la frange la plus radicale du mouvement. Des députés, des maires craignent pour leur vie. Reportage à Grenoble dès le début de ce journal. Et puis c'est un moment fort de l'affaire Daval. Le principal suspect, Jonathan, sera confronté aujourd'hui aux quatre membres de la famille de la victime. Son épouse, son ancienne épouse, Alexia.
Europe 1.
89 000 policiers et gendarmes sur tout le territoire, 8 000 à Paris, c'est presque deux fois plus que la semaine dernière pour sécuriser la capitale. 12 véhicules blindés de la gendarmerie pour franchir d'éventuelles barricades. Un tel niveau de mobilisation policière, c'est du jamais vu depuis les émeutes de 2005. Le gouvernement s'attend au pire pour le quatrième acte de la mobilisation des Gilets jaunes avec de nombreux appels à manifester demain à Paris. Car le mouvement s'est radicalisé. De proches collaborateurs d'Emmanuel Macron ont reçu des menaces de mort. Des élus et leurs familles ont été intimidés. Les responsables politiques sont devenus la cible d'éléments violents. Et quand certains membres de la majorité tentent de nouer le dialogue, c'est devenu impossible. Hier soir, par exemple, à Grenoble, Émilie Chalas, députée LREM, a dû annuler une réunion publique suite à des menaces sérieuses. Reportage de notre correspondant Rémi Pierre.
Les gilets jaunes grenoblois affichaient clairement la couleur sur les réseaux sociaux. Ils allaient venir se faire entendre lors de cette soirée consacrée à la démocratie participative. Mais ces dernières heures, des menaces explicites et sérieuses visant Émilie Chalas et sa famille se sont multipliées sur des sites de groupuscules extrémistes. La députée a donc préféré jeter l'éponge une demi-heure avant la réunion.
Les mots qui me sont revenus et qui ont été recroisés, c'était de dire « tous à la réunion de Chalas, il faut régler nos comptes ». Avec Chalas. Tout ça est très ambigu, très alambiqué, mais féroce, violent, cru et particulièrement effrayant pour la République. Au moins une centaine d'individus étaient prêts à se mobiliser pour donc régler leur compte avec la mère Chalas, quoi. Vous vous rendez compte ?
Du coup, une vingtaine de gilets jaunes a fait le déplacement, pour rien, déçu mais pacifique, assure Stéphane, Evelyne et Méziane.
Si effectivement elle a vraiment reçu des menaces, ça je peux le comprendre qu'elle a eu peur, mais nous on voulait en tous les cas être là pacifiquement et lui poser nos questions.
C'est dommage parce que moi j'aurais bien aimé parler, parce que justement elle est le porte-parole pour l'Elysée.
Et elle n'est pas venue le faire. C'est dommage. Honnêtement, c'est dommage.
Émilie Chalas assure qu'elle est prête à débattre dans les prochains jours avec les Gilets jaunes, mais pas dans cette ambiance délétère. À Grenoble, Rémi Pierre, Europe.
Dans ce contexte, quand est-ce qu'Emmanuel Macron prendra la parole ? En début de semaine prochaine, annonce Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, a confié à l'AFP que le chef de l'État ne souhaitait pas, je cite, « mettre de l'huile sur le feu avant les manifestations de samedi ». C'est donc une situation d'extrême tension qui s'est installée dans le pays avec des conséquences pour la vie quotidienne de chacun. Par exemple, à Lyon, la mobilisation de demain percute la traditionnelle fête des Lumières. Le maire et ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, affiche sa sérénité sur le bon déroulement des festivités. Mais la réalité, c'est que bon nombre de Lyonnais s'apprêtent cette année à renoncer à ces réjouissances. Reportage sur place, Jean-Luc Bougeon.
C'est un crève-cœur tant cette fête est chère au cœur des Lyonnais. Pourtant, cette année, Fanny n'ira pas malgré les 1200 membres des forces de l'ordre annoncés, le périmètre de sécurité et les fouilles aux entrées. La jeune femme a trop de craintes.
J'ai un peu peur. Les gilets jaunes, je sais qu'il y aura la manifestation dans la journée. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'angoisse énormément. Donc pour cette année, ouais, je serai capable de m'en priver.
Même sentiment chez Emeline, jeune mère de famille.
J'ai des enfants en bas âge et j'ai pas forcément envie de les emmener par rapport aux événements actuels. J'ai un peu peur du contexte de la violence, choses comme ça, emmener des enfants. J'ai pas forcément envie.
Alors officiellement, chez les Gilets jaunes lyonnais, on déclare ne pas vouloir perturber cette fête populaire et familiale. Sauf que, même en leur sein, certains comme Jean-Pierre ne sont pas confiants du tout.
J'aurais bien aimé que mes enfants puissent y aller. Je vais leur interdire d'y aller avec leur mère. Parce que j'ai peur justement qu'il y ait des débordements. J'ai peur que ça tourne mal, donc je veux pas que mes enfants aillent. Parce que des gens bêtes, il y en a de partout. Il y en a dans les CRS, il y en a dans les Gilets jaunes. Il y en a qui iront pour casser, c'est sûr.
Une fête des Lumières dans le collimateur également du maire de Saint-Étienne qui réclame sa suppression pure et simple au motif qu'elle mobilise la majorité des policiers. Des gendarmes de la région, alors que des manifestations potentiellement violentes se profilent dans d'autres grandes villes d'Auvergne-Rhône-Alpes. Lyon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
Vous le savez, la contestation s'est étendue aux lycéens. La journée d'hier a été marquée par de nombreuses violences aux alentours de certains des 280 établissements perturbés, des dégradations de mobilier urbain, des affrontements avec la police. Au total, 700 jeunes ont été interpellés.
À suivre dans ce journal, que faire pour agir sur le ressort profond de cette crise ? Comment améliorer le pouvoir d'achat des Français ? Une idée nouvelle fait son chemin, nous vous en parlons dans un instant. À tout de suite.
Il est 6h36. Il est 8h37, Mathieu Noël.
La suite du journal David Doucan. Au cœur de la crise des gilets jaunes, il y a la question du pouvoir d'achat. Le gouvernement envisage d'autoriser un nouveau dispositif.
Oui, une prime que les entreprises pourraient verser à leurs salariés, mais sans payer la moindre taxe. Une prime totalement défiscalisée. Ce n'est pas dans la culture des services de Bercy, mais le gouvernement veut que les entreprises, elles aussi, se mobilisent. Les explications d'Anne-Laure Jumet.
On a fait beaucoup de choses pour le patronat, ce serait bien maintenant qu'on les entende un peu. À Bercy, on met la pression sur les entreprises pour qu'elles contribuent à l'effort pour le pouvoir d'achat. D'où cette proposition. Celles qui le souhaitent pourront verser à leurs salariés une prime qui ne sera pas soumise à l'impôt sur le revenu ni à des charges salariales et patronales. Alors le montant sera plafonné pour éviter les effets d'aubaine. Tout cela reste à définir. Une mesure soutenue par les organisations patronales, en tout cas sur le principe. François Asselin, président de la CPME.
Pourquoi effectivement ne pas distribuer dans l'année jusqu'à 1 000 euros net de charges et net d'impôts en plusieurs fois lorsque c'est possible à nos salariés, sachant que évidemment dans le contexte actuel, beaucoup d'entreprises n'auront pas la possibilité de distribuer cette prime.
Et puis l'autre idée avancée par le gouvernement, c'est le versement d'une prime mobilité pour aider les personnes qui travaillent loin de leur domicile. Là, les entreprises sont plus frileuses, d'accord si c'est sur la base du volontariat, ou alors si ce n'est pas le cas, il faut, disent-elles, un financement public.
Information signée Anne-Laure Jumet du service économie d'Europe 1.
Vous le disiez en titre, David, c'est une journée importante dans l'affaire Daval.
Oui, parce que Jonathan Daval, qui est mis en examen pour le meurtre de sa femme Alexia, va être confronté aujourd'hui dans le bureau du juge à sa belle-famille. Il devra faire face successivement à son beau-père, sa belle-mère, sa belle-sœur et son beau-frère. Ce moment est très attendu par les magistrats pour essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017. Arthur Mbaché.
Quatre face-à-face successifs dans le bureau du juge. Quatre confrontations décisives, peut-être pénibles forcément. Il faut se souvenir que Jonathan Daval a d'abord pleuré avec sa belle-famille la disparition d'Alexia. Puis il a avoué le meurtre avant de se rétracter et de les accuser. Les parents, la sœur, le beau-frère, au cœur, d'après le principal suspect, d'un complot familial pour couvrir le crime. Grégory Gay, le mari de la sœur d'Alexia, serait, dit à présent Jonathan Daval, le meurtrier. Sauf que le beau-frère et les trois autres sont toujours simples parties civiles. Ils n'ont pas été inquiétés suite au dernier revirement de l'accusé. Ce sont eux qui ont demandé la confrontation d'aujourd'hui, qui sera découpée à la demande de la défense en quatre confrontations l'une après l'autre. De deux choses l'une, dit l'avocat des parents d'Alexia, où un coup de théâtre survient et Jonathan consent à nous dire ce qui s'est réellement passé, où rien ne se passe, dit Maître Florent, et c'est l'enlisement quasi assuré du dossier. L'avocat Jonathan Daval s'attend à une journée extrêmement tendue et émotionnelle. Le moment où Grégory Gay et mon client seront face à face sera, dit Maître Schwerdorfer, un moment clé de ce dossier. Besançon, Arthur Mbaché, Europe 1.
C'est fini pour l'Aquarius. Médecins sans frontières et SOS Méditerranée ont annoncé mettre un terme aux opérations de sauvetage de migrants de leur navire humanitaire. Je vous rappelle qu'il était privé de pavillon depuis deux mois et bloqué à quai. Mais les ONG explorent déjà activement les options pour un nouveau bateau et un nouveau pavillon.
C'était le journal de David Doucan, journaliste qui approche avec cette sérénité que confère le grand âge, le cap délicat de la quarantaine. Mais qui n'en reste pas moins formidablement jeune dans sa tête et dans son mode de vie, presque un geek. Car à l'heure où la plupart d'entre nous écoutons toujours de la musique en Bluetooth, David, lui, est déjà passé à une autre technologie.
Entre les deux rendez-vous, je suis allé m'acheter un truc Bluetooth pour mon casque scout. Bluetooth.
Et oui, le Bluetooth, le meilleur du Bluetooth, le moelleux en plus. On n'arrête pas le progrès. Allez David, cessez de vouloir jouer aux jeunes. Faites ce que vous faites le mieux avec cet organe dont vous a gratifié Dan Nature.
La météo immédiatement avec Céline Dacosta.
C'est à vous Céline.
Avec une perturbation qui arrive dans la matinée par le nord-ouest et qui va décaler vers le sud et l'est avec des averses soutenues et beaucoup de vent cet après-midi et ce matin. Un week-end ensuite qui s'annonce également agité avec des averses et là aussi du vent, de la neige sur les reliefs puisque les températures vont baisser. Et des éclaircies sur la moitié ouest tout de même pour dimanche et encore du soleil pour l'extrême sud avec là aussi un vent soutenu.
Merci Céline.
Europe 1. Il est 6h42, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, deux heures d'infos, de rire et parfois, il faut l'avouer, de racolage passif, voire même, en ce qui concerne Eva Rock, actif. Eva Rock est en effet la première journaliste à se servir de la traditionnelle question aux auditeurs comme d'un moyen de pécho ses auditeurs. Comme le prouve assez nettement la question d'hier, c'est même pas discret.
C'est la Saint-Nicolas. Est-ce que vous avez été sage? Et si oui, quelle friandise vous méritez?
Donnez directement votre 06, on perdra moins de temps la prochaine fois. À suivre, dernière chevauchée avec les trois fantastiques avant le week-end. Deux questions, la une ce matin. Comment l'Elysée s'organise-t-il avant ce week-end à haut risque? Et puis, pourquoi, alors que le trafic aérien bat des records, Air France va toujours aussi mal? Et Eva, pour nous prouver que je me fais des idées et que vous ne draguez pas les auditeurs à qui vous répondez sur Twitter, lisez-nous s'il vous plaît le message que vous êtes en train d'écrire.
Oui, et j'ai très envie en fait, moi aussi.
C'est épuisant d'avoir toujours raison. Épuisant.
C'est honnête.
Il est 6h44, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Le président de la République s'exprimera, mais pas tout de suite. Il ne veut pas mettre de l'huile sur le feu avant les manifestations de demain. Par conséquent, il parlera, mais en début de semaine prochaine, c'est Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, qui en fait l'annonce ce matin auprès de l'agence France Presse. Le dispositif de sécurité prévu pour l'acte 4 des Gilets jaunes, 89 000 policiers et gendarmes sur tout le territoire, 8 000 dans la capitale, une douzaine de véhicules blindés. Le gouvernement se prépare au pire et craint des violences encore plus graves que la semaine dernière. Enfin, le mouvement des lycéens s'est durci, 280 établissements perturbés hier et des violences. Les policiers ont procédé à 700 interpellations.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
6h45, l'heure de retrouver ceux qui vous offrent plus que l'info brute, l'analyse nette. Les trois fantastiques sont réunis une dernière fois avant le week-end. Eva Roque pour les médias, Axel de Tarlé pour l'économie, Mickaël Darmon pour la politique. Chacun a évidemment son domaine de prédilection, mais ils partagent quelque chose qui est d'ailleurs une valeur commune à tous ceux qui travaillent dans Debout les copains. L'indépendance totale, non négociable vis-à-vis des lobbies et des marques, n'est-ce pas Axel?
Cdiscount, vente privée, showroom privé, la Fnac, Darty, Boulanger,
oui,
la Redoute.
Oui, Céline, vous vouliez ajouter quelque chose?
Pour se désaligner de la vie urbaine et rompre avec son quotidien, quoi de mieux qu'un joli magazine?
Bien sûr, c'est vrai que Paris Match, c'est vraiment un magazine fabuleux, mais nous n'en ferons jamais la publicité ici. Mickaël Darmon, à ma gégère, il est 6h46, l'heure de passer à la politique. Et en cette veille de manifestation des Gilets jaunes à Paris, un dispositif colossal de policiers est déployé, car les prévisions les plus alarmantes sont entre les mains du pouvoir.
Oui, avec donc une inquiétude sans précédent au sommet de l'État. Emmanuel Macron, je peux vous dire, a passé hier sa journée en consultation au téléphone, a parlé avec plusieurs personnalités politiques, des responsables d'organisations professionnelles, à la fois pour les remercier de leur attitude républicaine et pour leur demander également de passer un message donc à leurs troupes pour ce week-end. Toutes les tensions politiques sont mises de côté, que ce soit avec Matignon ou d'autres responsables politiques. Il a d'ailleurs déjeuné avec Édouard Philippe pour débriefer et calmer. Bref, le président veut mettre en place une union sacré contre la violence, parce que pour ce week-end, les alertes et les informations recueillies par les policiers, on en parle largement, remontent à l'Elysée avec un seul message. Paris pourrait être transformé en champ de bataille pour des éléments extrémistes de l'ultra-gauche et de l'ultra-droite.
Est-ce que ces consultations lui ont permis de prendre des décisions ou de passer des messages?
Alors en fait, il a beaucoup consulté pour aussi savoir, par exemple, comment ou quand prendre la parole. Alors, avant ou après la manifestation? Alors, Europe 1 vous le disait dès hier matin, Emmanuel Macron a décidé de parler en début de semaine prochaine. C'est aujourd'hui confirmé. Ensuite, il a posé la question, instaurer l'état d'urgence ou pas? Là encore, certains lui ont dit, mais le dispositif est très lourd et d'ailleurs, la loi déjà donne tous les outils. Mais surtout, en cette veille de journée cruciale, il a voulu rompre également avec l'image d'un président isolé. Les appels souvent très violents des Gilets jaunes visent sa personne. Et en faisant le tour des forces vives du pays, il a voulu montrer que la cible de la colère reste quand même le garant de l'équilibre de la nation, qu'il entend des propositions, une façon donc de partager et d'affronter son inquiétude à la veille de sa plus grave épreuve depuis son élection.
Merci beaucoup Mickaël Darmon. J'allais dire on passe à des choses plus réjouissantes, mais pas tout à fait, puisqu'on parle économie avec vous, Axel de Tarlé.
On va quand même prendre de la hauteur.
On prend un peu de hauteur toujours avec vous. Trafic aérien record en Europe, mais malheureusement, Air France n'en profite pas.
Oui, alors c'est un sacré paradoxe parce qu'effectivement, le trafic aérien en Europe, on a dépassé le milliard de passagers. Les chiffres sont tombés hier, Eurostat, donc un nombre de passagers en hausse de 7%. En France aussi, le nombre de passagers progresse, plus 6%, 154 millions de passagers exactement. Paris-Charles de Gaulle s'impose comme le deuxième plus grand aéroport d'Europe. Donc vous voyez, un marché de rêve, on se dit que Air France n'a qu'à se laisser porter. Bah, pas du tout, parce que qui profite de ce marché de rêve? Ce sont les compagnies low cost qui trustent maintenant près de 40% du marché européen. Et c'est le contraire. Air France a beaucoup de mal à s'adapter à ces nouveaux petits concurrents qui affichent des prix cassés. Et donc, d'où ces grèves à répétition, d'où des pertes récurrentes. Et puis surtout, deux PDG quand même, coup sur coup, qui ont démissionné, à savoir Alexandre de Juniac et Jean-Marc Janaillac, donc au printemps dernier.
Et justement, est-ce que l'arrivée du nouveau PDG canadien, Benjamin Smith, a changé les choses?
Eh bien oui, elle est là la bonne nouvelle. Visiblement, Benjamin Smith a réussi à renouer le dialogue avec les pilotes. Et il y a une preuve, figurez-vous que les pilotes viennent de voter, c'était il y a quelques jours, pour leur représentant du SNPL. Vous savez, c'est le syndicat de pilotes redoutable qui est dirigé par l'intraitable Philippe Évin, que Laurent Berger, souvenez-vous, au printemps dernier, avait surnommé le leader Maximo. Vous savez, celui qui en veut toujours plus. Eh bien, écoutez, le leader Maximo s'est pris une claque là aux élections du SNPL. Il est arrivé en 41e oula, position. Oula. Les pilotes veulent vraiment tourner la page. Ils veulent
une page se tourne, cher François.
Voilà, ils ont choisi un représentant dit du courant des constructifs. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça nous annonce un climat plus apaisé au sein d'Air France pour que enfin notre compagnie nationale puisse se laisser porter un peu par ce marché de rêve qu'est le secteur aérien.
Donc vous pouvez garantir à nos auditeurs, aux auditeurs fidèles d'Europe 1, qu'il n'y aura pas d'annulation de nouvelles grèves sur Europe 1
Air
et qu'à Noël, tout va bien
France,
se passer.
Et c'est ce qui fait son charme.
Ah, c'est pas très encourageant ça. Merci Axel de Tarlet. Eva Rock, on termine avec vous. Qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce week-end?
Alors ce week-end, France Télévisions dédie ses antennes au Téléthon dans le Parrain et Pascal Obispo. Chaque année, je le redis, je suis toujours un peu sceptique sur le Téléthon en tant que programme télé. Je pense qu'il faudrait un format un peu plus moderne, un peu plus original. Il n'empêche, un seul mot d'ordre, on vous le dit depuis ce matin, c'est le 36-37. Et samedi soir, pendant que France 2 proposera un grand rendez-vous mêlant variété, reportage et appel aux dons, et bien sur TF1, c'est un singe qui incitera les téléspectateurs à faire aussi le 36-37. Le ventriloque Jeff Panaclock et sa marionnette Jean-Marc héritent en effet d'une grande soirée de divertissement et apparemment, ils en rêvaient.
J'ai demandé un truc de ouf.
Ouais, une muselière, non?
Non, va te faire piquer en temps plein.
Bon bah quoi alors?
Un prime time sur TF1.
Jean-Marc, ils veulent même pas te tendre du côté de chez vous. Allez, va mettre la table.
Dans ta gueule, la table! Moi, j'envoie ma lettre! Prévois du smectap parce que quand ils vont t'annoncer qu'on tourne notre prime, tu vas tâcher ton chino!
Et cette lettre, elle est partie au Père Noël. Et pour exaucer ce vœu, le Père Noël en personne, alias Didier Bourdon, il a pris rendez-vous avec la directrice des programmes de TF1, Isabelle Nanty.
Alors, je vais être direct. Voilà, il veut un prime à Noël.
C'est super, ça, qu'il appelle RMC Découverte ou Planète. Tu leur trouves les macaques.
Non. Il veut un prime sur TF1.
Et ils ont leur prime sur TF1. Alors au programme Chant de Noël, vous êtes en train d'entendre Amir, Happening avec des acteurs de Cadmerade à Gérard Jugnot, des parodies dont une très réussie de Joséphine Ange-Gardien avec Mimi Mati et autres sketchs vont rythmer la soirée. Le tout est enveloppé dans l'humour, alors parfois un peu vulgaire, hein, de Jean-Marc et Jeff Panaclock. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une telle production pour un prime time avec un petit air d'émission à la Gilbert, à la Mariti et Gilbert Carpentier. J'ai dit un petit air, mais n'empêche, c'est à regarder en fin de nuit, c'est samedi soir à 21h sur TF1. Ça s'appelle L'étrange Noël de monsieur Jeff.
Vous avez un petit doute, c'est ça?
Parce que j'étais avec vous savez, le
Panaclock.
Non, mais parce que je pensais au film, puisque c'était aussi.
Ah, ben oui, de Mr. Jack. Voilà.
L'étrange Noël, voilà. De Monsieur Jack. Merci beaucoup. Merci Mickaël Darmon, Axel de Tarlet. Les trois fantastiques seront de retour lundi, peu avant 7h moins le quart. C'était vraiment une très belle édition ce matin, les amis. Un peu comme le dernier numéro du magazine Elle.
Chic, cool, simple et ultra féminin.
Ne l'oublions jamais.
Il est 6h52, Mathieu Noël.
Debout les copains va bientôt s'achever et comme la nuit s'efface lorsqu'arrive le soleil. Votre serviteur s'apprête à s'éclipser devant cet astre à nul autre pareil. Ce journaliste à la polyvalence inouïe, aussi à l'aise dans un jet privé qu'à l'Ibis de Mourinx. Il adore le débrief de sa matinale. C'est simple, quand Nico Salegas me voit entrer, il n'a qu'une seule question. Quelle seule question en tête?
Où est la porte de sortie?
Le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nico Salegas à suivre.
Il est 6h55, Mathieu Noël.
Debout les copains, touche à sa fin les amis, mais c'est sans importance. Car Madame Dacosta, Madame Rock, les Français le savent, le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nico Saliegas, plus qu'un collègue, un ami, m'a d'ailleurs donné un petit surnom grec affectueux, l'Otrokonos. Oui, m'adore. Comme il le confiait pas plus tard qu'hier à son réalisateur, sans imaginer que j'enregistre aussi quand il parle à la régie.
Quelle ordure ce Mathieu Noël, il entend tout.
Quelle joie de vous retrouver, mon cher ami Nico. Surtout à cet instant à la fois cocasse et cruel où je suis en week-end et pas vous.
Enfoiré.
C'est en tout cas une belle semaine qui s'achève pour le 7-9 d'Europe 1. Journalistiquement, je crois que vous avez su, Nico, se trouver la bonne distance critique vis-à-vis du phénomène des gilets jaunes. En effet, dans ce momentum populaire, d'aucuns auraient pu vous reprocher votre profil un peu trop premier de cordée, star de l'audiovisuel. Vous avez su démontrer que vous étiez resté un homme simple, avec cet argument massu auquel je n'aurais jamais pensé.
Oh là 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 là, j'ai même pas de yacht.
Et oui, il n'a même pas de yacht, c'est dire s'il vit chichement. On l'imaginait, Gatsby le magnifique, c'était Diogène en son tonneau. Oui. Un journaliste, ben oui, quasiment. Oui. Un journaliste qui n'a pas eu peur également de s'engager sur des sujets difficiles et clivants.
Pour la libération des boules de neige. Si on améliorait la qualité de vie des poulets.
Maintenant, je crois qu'afin qu'Europe 1 franchisse un cap en audience, ça ne dépend plus vraiment de vous, Nikos, mais de la communication. La com fait
de
tout.
De vous,
dans...
surtout.
Ça dépend de nous, mais surtout de la com, qui fait tout dans le monde contemporain. C'est pourquoi, trouvant la pub de votre matinale, que nous allons écouter dans un instant, un peu molle, je me suis permis d'y apporter 2-3 corrections. Voici donc l'original.
Avec Nikos Eliagas sur Europe 1.
Contre-champ sur l'événement.
Est-ce que cette colère, vous la ressentez parmi les habitants aujourd'hui ?
C'est pas mal, mais est-ce que ça met vraiment en exergue les meilleurs moments de la matinale ? Non, je ne le crois pas. Voilà ce que j'ai fait, moi.
Avec Nikos Eliagas sur Europe 1.
Ceux qui aiment plus fort ceux de ceux qui divisent.
Gros plan sur votre quotidien.
Vous aimez le golf ? Vous aimez le swing ? Ajustez votre coup.
2 heures d'infos en haute définition.
Ce matin, nous sommes en ligne avec Annie Dupéret. Bonjour, Annie.
Bonjour, bonjour.
Votre chatte Mina, que j'avais vue, rencontrée, oui. Même photographiée.
Oui, oui, c'était ma dernière chatte d'écrivain.
C'est quoi une chatte d'écrivain ?
La matinale de Nikos Eliagas.
Salut Nikos, you're a star.
Avouez que ça a quand même une autre gueule quand c'est Bibi qui supervise la com. Il faut vraiment tout faire dans cette boîte. Hein.
Bravo, bravo, vous pouvez être fier de vous, c'était votre dernière prise de parole. J'ai des amis qui vont s'occuper de vos week-ends, même si c'est pas dans l'air du temps. Mais bon.
La sanction est tombée.
Il est où votre gilet ?
Vite, je vais enfiler.
Merci Mathieu Noël, c'est un plaisir de se réveiller depuis la rentrée avec vous, avec Eva Rock.